Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr.
Sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Sabrina la technique aujourd'hui. Bonjour Sabrina. Le 11 octobre 2023 à 23h59, suite à des difficultés économiques, IDFM Radio était contrainte de limiter la diffusion de ses émissions. Se sont manifestés alors de nombreux soutiens à la fois de ses fidèles auditeurs, adhérents et partenaires, collectivités locales, État, milieux associatifs, et nous les en remercions chaleureusement. Aujourd'hui, ces difficultés ont été surmontées, en partie, grâce à la détermination et l'esprit d'équipe du collectif, direction, salariés, conseil d'administration et adhérents, chacun ayant à cœur de donner le meilleur de lui-même. Raison pour laquelle IDFM Radio est aujourd'hui en capacité de revenir à une diffusion normale. Et quoi de mieux pour vous retrouver que d'avoir comme invité une délégation de la CPME, fidèle partenaire et amie. Je vous souhaite donc une excellente journée à vous tous qui avez choisi de nous écouter ce matin 1er décembre pendant 90 minutes pour cette reprise de l'économie en direct sur IDFM Radio, la radio valdoisienne en FM sur 98, web radio sur 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Entreprises de nettoyage, drones, réalité virtuelle, transmission d'entreprise, ils ont tous fait le choix d'adhérer à la CPME, première organisation de dirigeants d'entreprise. Mais pour quelles raisons? C'est ce que nous allons découvrir encore cette fois. Un focus qui nous permet de découvrir ces chefs d'entreprise engagés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Troadec. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Président fondateur de Awen Service, une entreprise de nettoyage et donc un domaine qui nous concerne tous. Vous nous direz tout sur cette activité multiple et qui semble plutôt prospère.
On se plaint pas.
On peut le dire. À vos côtés, Gilles Fascioli. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Je prononce bien votre nom.
Gilles Souet.
Très heureuse de vous recevoir à notre antenne, d'abord comme adhérent de la CPME bien sûr, mais aussi parce que vous êtes dirigeant de SAFIM, spécialisé dans la transmission d'entreprises, croissance externe et développement stratégique. Nous découvrirons quel type d'entreprise et les bons conseils à suivre lorsqu'arrive l'échéance de la transmission. Et à vos côtés, David Molina. Bonjour David.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans nos studios. Président de Silmaril et Imagency, c'est ça?
C'est ça.
J'ai bien prononcé. Une activité centrée sur l'image sous toutes ses formes. Vous nous expliquerez toutes vos compétences pour répondre à la demande et dans quel secteur vous exercez vos activités. Avec nous, bien sûr, quatre adhérents de la CPME, tout comme Bruno Troadec et Gilles Fascioli. Bienvenue et merci d'être là chez IDFM Radio pour cette reprise de l'économie en direct. Une émission à retrouver en podcast sur le site IDFM 98 ou sur notre appli. Un peu de musique et on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est bien l'économie en direct, une émission spéciale CPME du Val d'Oise, avec à mes côtés Bruno Troadec, président fondateur de Awen Service, entreprise de nettoyage, Gilles Fascioli, dirigeant de SAFIM, alors j'ai dit quelques bêtises tout à l'heure et je rectifie, spécialisé dans une entreprise familiale spécialisée dans l'usinage, mais ça ne l'empêchera pas de nous parler de transmission tout à l'heure, et David Molina, président de Imagency, une activité centré sur l'image sous toutes ses formes. Et justement, je commence avec vous, Gilles Fascioli. Donc, parlez-nous de cette entreprise familiale dont vous dites qu'elle vous a intéressé aussi au niveau de la transmission, si j'ai bien compris.
Ouais, donc SAFIM, c'est une société qui a été créée par mon grand-père après-guerre, qui travaillait chez Gnomeron, donc c'était les moteurs de moto de l'époque, et Gnomeron est devenu Snagma puis Safran, et donc il a monté sa structure, et ma mère a repris en 74, Et donc moi je suis arrivé en 95 et donc j'ai repris la société. Et depuis je n'ai fait que des croissances externes pour diversifier la clientèle et trouver de nouvelles personnes.
C'est ça. Donc parce que c'est un secteur qui est-ce que c'est un secteur qui marche bien ou au contraire le fait que vous ayez fait de la croissance externe, c'est la preuve que les entreprises n'allaient pas bien et vous avez pu les racheter?
Alors on a vécu depuis 95 toutes les crises dont on a pu entendre parler. Mmh. Donc en rachetant d'autres sociétés, ça permet de diversifier et de rebondir lorsque la crise est là. Donc on a pris on a racheté des boîtes qui étaient toujours dans l'usinage,
oui,
mais qui n'avaient rien à voir avec le métier premier. Donc à l'origine, on faisait des éprouvettes pour les laboratoires d'essai, donc usinage de pièces en acier pour valider la matière, aussi bien en amont pour la création de matière qu'en aval, lorsqu'un avion s'est crashé, il faut vérifier que la pièce était conforme à ce qui avait été demandé par le client.
Bien sûr.
Et donc on a débuté en rachetant une autre société qui faisait des capteurs d'ultrasons, j'ai acheté une boîte qui faisait des moules. J'ai acheté des boîtes qui bossent dans le ferroviaire, dans la maintenance alimentaire. Là, on rachète une autre société qui travaille dans l'électro-érosion.
Donc, et la maintenance alimentaire, quel lien avec aucun ?
L'usinage,
quand même, toujours.
C'est-à-dire qu'en fait, je rachète des boîtes plus pour les marchés, mais surtout pour les hommes.
Oui.
Donc, comme on trouve personne aujourd'hui dans ce domaine-là, la manière de trouver du personnel, c'est de racheter des sociétés.
D'accord.
Donc, le but, c'est surtout de trouver des sociétés avec du personnel. C'est-à-dire que financièrement, c'est pas l'intérêt, quoi.
Oui, mais j'imagine que vous vous y retrouvez quand même financièrement. Sinon, vous le feriez pas.
Une société n'est rien sans ses hommes.
Oui.
Donc oui, à partir du moment où on a du personnel, on est capable derrière de diversifier et de faire fonctionner la société. Et aujourd'hui, c'est vrai que le marché aéronautique est hyper porteur. Donc tout va plutôt bien, ouais.
Oui. Et ces entreprises que vous rachetez, elles restent sur leur site ou vous les rapatriez sur un siège?
Non, c'est des qui sont sur leur site. Donc en fait, on a beaucoup racheté sur Argenteuil et la région.
Oui.
On a fait aussi du rachat sur le Maroc. Enfin, on a créé une société au Maroc plutôt. On a créé des sociétés aussi sur Saint-Étienne parce que des clients me demandaient d'y aller. Donc c'est toujours sur une volonté d'un client en fait pour ce qui est création de société. Après, le rachat, c'est parce qu'on avait une société qui ne se vendait pas, dont j'entendais parler. Mm-hmm. Et donc, on allait voir et finalement, on reprenait. J'ai vu beaucoup de boîtes, mais je n'ai pas tout repris. Hein.
Oui, oui. Quand vous dites rachat client, c'est un dirigeant d'entreprise qui veut céder son entreprise et qui fait appel à vous.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être la chambre de commerce qui m'en parle. Ça peut être moi comme ça qui tombe sur une affaire. Et si le marché m'intéresse et si je trouve qu'il y a le feeling avec le dirigeant, j'engage le processus.
Oui.
Donc là, on est en cours de rachat d'une société. Là.
D'accord. Et ces entreprises, elles ont quelle taille chacune?
Alors, c'est des petites sociétés. Hein. Mmh. C'est maximum 7 personnes. Je ne me considère pas capable de racheter plus d'ailleurs. Puis financièrement, je n'ai pas envie de le faire.
Oui.
Donc, ça peut être des prix qui vont de 10 000 jusqu'à 300 000.
Ah oui, oui, très bien. Oui. Et vous arrivez toujours à satisfaire l'acheteur?
Alors oui, l'acheteur, ça peut être quelqu'un qui part en retraite, donc
ouais.
Et puis qui imaginait que sa société valait une fortune,
mais bon, c'est souvent le cas.
Qui se rend compte que finalement c'est pas le cas. Ça peut être quelqu'un qui supporte plus les dirigeants parce que c'est compliqué les dirigeants,
compliqué, ouais.
Avec la pression qu'il y a aujourd'hui, toute la paperasse. Donc dans ce cas-là, il vient avec nous et il devient un chargé d'affaires. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et on garde par contre tous les salariés. Parce que je vous dis, c'est l'homme qui m'intéresse.
Oui, je comprends. Le but aussi, c'est de les faire adhérer à la reprise de l'entreprise. Oui. C'est peut-être pas aussi évident.
C'est compliqué en fait, parce que chaque société a sa manière de fonctionner. Vous avez des gens qui ont des salaires mais avec des primes, des gens qui ont des 13e mois, des gens qui ont des tickets restaurants. Donc tout ça en fait fait que quand on décide de tout mettre sur un même site, c'est là où il faut être un petit peu agile, quoi. Donc ça, c'est un petit peu la complexité du système.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, on a tout sur un même site, oui.
Oui, d'accord. Et comment se calcule la prestation, enfin le fait de reprendre une entreprise, comment vous vous y prenez pour évaluer son vrai coût? Parce que ça, c'est compliqué.
Déjà,
vous l'avez dit très justement, le vendeur croit toujours que son entreprise vaut plus cher.
Déjà, je passe par un collègue qui est comptable, qui va me dire déjà sur les chiffres ce que ça vaut. Souvent, mon ami me disait, faut pas y aller parce que ça vaut pas le coup. Mais j'y allais quand même parce qu'en fait, humainement, il y avait des choses à faire. Donc j'ai repris une société qui n'était pas en très bon état, mais avec les moyens qu'on avait nous chez nous, ça nous a permis d'améliorer nos moyens de production. Et donc on a robotisé, parce que justement pallier au manque de personnel. Donc il y a toujours, c'est un petit peu Tetris, je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Oui, je connais très bien.
Voilà. Donc il faut racheter les boîtes et voir comment elles peuvent s'insérer dans ce qu'on a aujourd'hui.
Voilà. Les unes dans les autres.
C'est ça, ouais. C'est en fait c'est vraiment la stratégie, c'est vraiment ce qui me plaît le plus.
Très bien, très bien. Je vous propose de marquer une pause et puis on continue cet entretien. À tout de suite.
Vous écoutez l'économie en direct avec Jacqueline Voraz.
Et oui, c'est bien l'économie en direct, une émission ce matin pour notre reprise du cours de nos émissions normales, une émission spéciale CPME du Val d'Oise, avec toujours à mes côtés Bruno Troadec, président fondateur de AON Service, Gilles Fascioli, dirigeant de Safim, et David Molina, président de Imagency. Alors Gilles, on évoquait donc votre goût des reprises d'entreprise, hein, qui c'est vrai que vous vous attachez aux hommes, mais comme vous dites, c'était une façon de trouver du personnel puisque c'est difficile en ce moment. Je voudrais qu'on revienne sur un de vos clients, c'est Safran, donc
oui.
Une boîte énorme. Il y a eu le Covid, qu'est-ce que ça a provoqué à ce moment-là?
Alors moi j'étais déjà sur le rachat d'une société qui bossait dans le ferroviaire.
Oui.
Donc pour me développer. Quand Safran, j'avais pas encore signé quand Safran nous a dit bah aujourd'hui on arrête. Donc c'est le mercredi au mois de mars je crois. Mmh. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signe quand même le rachat ou est-ce que j'arrête? Et bon en fait si Safran arrêtait, il fallait qu'on puisse faire autre chose. Mmh. Donc j'ai quand même signé. Faut savoir que c'est une société où il y avait 4 personnes, le dirigeant qui partait, le chef d'atelier qui restait et 2 salariés qui partaient en retraite au bout d'un mois. Mm-hmm. Donc autant vous dire que c'était pas évident quoi.
Oui, oui.
Mais par contre l'intérêt c'est que comme les gens partaient, ça me permettait d'utiliser mon propre personnel pour faire les pièces.
Ça vous récupériez au fond le fichier client
Alors, le fichier client c'était oui, mais il y avait pas beaucoup de clients parce qu'ils étaient 4, c'était que des moyens conventionnels. Mm-hmm. Donc nous on est plutôt numérique. Donc en fait on a récupéré le client avec nos moyens de production. Mm-hmm. Donc on a pu améliorer la rentabilité. Mm-hmm. On a pu prendre plus de boulot aussi, puisqu'on en dépendait plus du taux de dépendance. On avait plus ce problème-là. Mmh. Et donc, quand Safran nous a dit on arrête de travailler, quand monsieur le président, d'ailleurs, monsieur Macron, a dit on arrête de travailler, pendant une semaine, on n'a rien fait. Mmh. Et ensuite, Safran nous a dit ok, mais nous, on a besoin de vos pièces, donc faut revenir travailler.
D'accord.
Donc nous, en fait, on est arrêté une semaine. Après, on a continué à fonctionner en chômage partiel, comme beaucoup de boîtes. Mmh. Mais on a quand même réussi à fonctionner. Et le fait d'avoir racheté cette boîte dans le ferroviaire a fait que finalement, on n'a pas eu beaucoup d'impact. Et ça m'a permis de profiter donc, du PGE, mais que je n'ai pas utilisé. Mmh.
Ouais.
Donc en fait, en n'utilisant pas ce PGE-là, ça m'a permis d'utiliser les fonds pour acheter un robot cette année. Mmh. Donc on a modernisé. Moi, la crise m'a fait du bien.
Oui, on peut dire ça.
Les crises, moi, me permettent de nous développer. Donc,
oui, c'est tout l'un ou tout l'autre.
C'est intéressant.
Où on rebondit, où on s'écroule. Votre entreprise est située à quel endroit?
Donc, on est à Argenteuil. On est à peu près une vingtaine sur le site.
Donc, pas loin de Safran, peut-être?
Oui, c'est ça, puisque Safran est à Gennevilliers.
Oui.
Donc, mais c'est vraiment historique, hein. Safran, c'est vraiment la niche de notre activité. Et avec les rachats de sociétés, on s'est diversifié sur de nombreux autres marchés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dépend moins de Safran.
Oui.
Et comme Safran aujourd'hui a besoin de beaucoup de, enfin, une charge importante, on peut reprendre de la charge avec Safran.
Oui, c'est ça. Vous leur avez apporté un service supplémentaire et puis surtout l'envie de pas vous quitter.
C'est ça.
Parce que c'est ce qui se passe donc, avec parfois les sous-traitants.
Exactement. Et comme on a pris de nouveaux marchés et que on sous-traitait une partie de cette activité-là chez un fournisseur. Ce fournisseur-là voulant partir en retraite, on s'est dit on le rachète. Donc c'est pour ça qu'on est en train de racheter une société là.
Et vos sociétés au Maroc, donc ça vous fait faire des allers-retours là-bas?
Alors j'ai monté la boîte en 2007. Pendant 5 ans, je passais une semaine par mois là-bas. Maintenant, on a complètement lâché l'affaire, donc j'y vais plus.
Très bien. Mais elle existe toujours?
Elle a été reprise par les Marocains.
Ah oui, d'accord, c'est ça. Vous l'avez cédée.
Oui.
Vous avez, je crois, une actualité à nous annoncer, Gilles,
On reprend une société, donc on est en signature, ça va se faire dans les 15 jours. Ouais.
Et on peut savoir dans quel domaine?
Alors, c'est de l'électro-érosion, donc c'est la découpe avec un fil, comme un fil à couper le beurre, sauf qu'on découpe de l'acier.
Très bien, très bien.
Pour prélever nos éprouvettes.
Et combien de personnel?
Quatre personnes.
Quatre personnes. Dernière question, pourquoi être devenu membre de la CPME?
D'abord, j'étais beaucoup dans tout ce qui est réseau plateau.
Oui.
Donc, parce qu'en fait, quand on est patron, on est un peu tout seul. Hein. Donc, l'avantage de la CPME 95, c'est qu'il y a des réunions, il y a des sujets intéressants. On peut sortir de notre cadre pour discuter avec d'autres personnes qui gèrent des boîtes, qui ont des vues totalement différentes. Mmh. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de ça, en fait. Pour moi, c'est ça.
Vous y êtes depuis combien de temps à la CPME maintenant?
Ah bah, j'étais avant au SNPMI, enfin, ça date vraiment. Donc,
ça date,
je pense que déjà mes parents adhéraient au syndicat, donc j'ai pu continuer. Quoi.
C'est une transmission là aussi.
Oui.
Est-ce que vous espérez, parce que je vois que vous êtes contre ces aides qui profitent à tous ceux qui profitent du système via le chômage, est-ce que vous espérez que la CPME pourrait agir dans ce sens?
Alors, je suis pas contre les aides. Hein.
Non.
Je trouve qu'aujourd'hui, il y a des chômeurs qui ont choisi d'être chômeurs.
Oui.
Et je trouve ça dommage. Je préférerais, limite, utiliser les moyens pour payer mieux mes salariés et être moins chargé. Et la CPME peut faire remonter le sujet, oui.
Oui, en tout cas, ça fera partie de vos comment? Des thèmes que vous pourrez aborder avec cette communauté entrepreneuriale. Merci Gilles Facioli. Donc on voit des perspectives plus que prometteuses où il va falloir beaucoup de pignâtreté et de détermination.
J'en manque pas.
Merci à vous. Donc une nouvelle pause avant de retrouver David Molina. À tout de suite.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct, une reprise aujourd'hui 1er décembre et aujourd'hui spécial CPME. Et je suis toujours en compagnie de Bruno Troadec, président fondateur de Awen Service, Gilles Facioli, président de Safim, et David Molina, président de Imagency. David Molina, on continue avec vous. Alors, nous nous sommes croisés sur le salon Effervescence et puis lors d'une signature de charte de Digital School France. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger un petit peu à ce moment-là et donc je suis ravie que vous puissiez venir dans l'émission aujourd'hui. Je vois que votre parcours académique, c'est ingénieur informatique en imagerie 3D, télépilote de drone. Est-ce que ça veut dire que vous avez toujours voulu faire ce métier ? David.
Je crois que petit, j'aurais voulu faire ce métier, mais le destin a fait un petit peu autrement, puisque lorsque j'ai terminé mes études, donc j'ai commencé une thèse à un moment donné, dans le parcours académique, comme on dit, et j'ai pas pu finir la thèse par manque de financement. Et
d'accord.
À ce moment-là, bah, j'ai cherché du travail, sortant de l'armée, et je suis entré dans une banque. Et donc, j'ai fait 20 ans dans une banque.
Voilà, vous deviez être très malheureux.
Comme responsable informatique, bah, j'y suis resté 20 ans, donc j'y ai trouvé quand même une partie de plaisir. Une banque internationale très grosse, et donc, une carrière intéressante, et en 2017 il y a eu un plan de départ volontaire et c'était l'occasion pour moi de repenser un peu mon avenir, si bien sur la partie pratique que théorique. C'est comme si on devait passer son permis voiture avec la partie code, ben pour le droniste, hein, le télépilote de drone, de la même manière, il faut passer une partie théorique et une partie pratique. Donc on va dans un aéroport, on passe comme on passerait
un brevet de pilote d'avion, c'est ça.
Voilà, un brevet de pilote ou du LM. Et donc ensuite, on peut acquérir des drones. On est société exploitante, donc un petit peu comme une compagnie aérienne qui dispose d'avions, nous on dispose de drones, et qui fait appel à des télépilotes. Donc
très
il y a
bien.
Trois entités qui jouent ensemble, là l'exploitant, les drones et les télépilotes. Voilà, et donc tout ça, ça date depuis 3 ans, l'époque du Covid, où on s'est formé, on a pu acheter des drones et on a fait évoluer ça depuis 3 ans.
Et c'est une formation qui a un coût, j'imagine.
C'était un coût pour l'entreprise, hein, c'est à peu près 10 000 euros au total pour les deux personnes. C'est une partie de l'investissement. Et puis ensuite, les drones, pareil, c'est 5, 6, 7, 8 000 euros par drone, plus tous les équipements derrière. Donc voilà, l'investissement au total, c'est peut-être entre 30 et 50 000 euros pour avoir les 5 drones et les 2 télépilotes et tout ce qui va à côté en termes d'un point de vue administratif et aussi informatique.
Oui.
Puisqu'on en travaille avec beaucoup maintenant de puissance informatique pour pouvoir calculer nos modèles, etc. Et donc l'investissement était nécessaire pour pouvoir développer. Mais ça, c'est la vie de l'entreprise.
Oui. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, le retour sur investissement,
Alors, sur la partie imagerie classique, parce qu'avec un drone, on peut faire de l'image comme tout le monde la connaît à la télévision. Hein. Oui. C'est-à-dire, on tourne autour d'un château, on montre comme des racines et des ailes, si on peut les citer, de l'image classique. Ça, le retour sur investissement, il est fait. Là-dessus, il n'y a pas de, tellement de sujets. Depuis le début de l'année, depuis 2023, on a pu acheter des drones beaucoup plus techniques, qui permettent de faire de la modélisation 3D, qui permettent de faire de l'analyse de, dans la partie agricole, hein, d'accord, donc de passer au-dessus d'un champ de salade et de dire bah ces salades-là elles manquent d'eau, ces salades-là elles manquent d'azote, elles manquent d'azote, etc. Et sur cette partie-là, aujourd'hui, le retour d'investissement, il est pas encore là. Puisque on a démarré en début d'année les formations, l'achat des drones, on a eu quelques activités déjà en principalement des entreprises du BTP où on a fait la cartographie hein, comme pour les architectes, etc. Il faut un petit peu de temps aussi hein, quand on lance une offre, quand on la market comme on dit, comme on la propose. Ensuite, il faut pouvoir convaincre des clients parce que travailler avec des sociétés d'autoroute ou des sociétés de voirie, eh ben c'est des éléments qu'ils connaissent pas forcément. Ils ont l'habitude d'un plan 2D sur un morceau de papier. Ou sur ordinateur, mais quand on leur dit, ben nous, on vous fabrique un modèle 3D, vous allez pouvoir le faire tourner dans tous les sens, mesurer les surfaces, mesurer les volumes de terre, par exemple, s'il y a une bosse, une butte de terre, donc du remblai, du déblai sur un terrain, on est capable, en passant en drone, de mesurer la quantité, le volume en mètres cubes de terre, et donc de dire, bah, pour extraire ce terrassement-là, il va falloir tant de camions, des choses comme ça. Et ça, c'est très rapide en drone, c'est 15
sûr.
Minutes.
Voilà. Donc ça peut intéresser des architectes, ça peut intéresser. Est-ce que l'IGN pourrait être ou a ses propres drones?
Alors l'IGN a ses activités plutôt par satellite, à vrai dire.
Parce que je crois qu'il sous-traite pas mal quand même. Hein.
Oui, alors ils ont une vision qui est beaucoup moins précise que nous. Hein. C'est pour schématiser, le principe souvent c'est qu'ils utilisent la vision satellite qu'on connaît tous, nous, parce qu'on a le GPS dans la voiture, donc qui est capable de nous localiser, qui est capable de faire de l'image avec un satellite. Par contre, c'est la résolution, c'est-à-dire que le satellite ne verra pas la salade. D'accord. Par contre, le satellite verra une rue, d'accord, avec une précision plus ou moins bonne de positionnement. Et par contre, en drone, quand on passe à 20 mètres ou à 30 mètres ou à même 50 mètres d'altitude, de hauteur, on a une vision très précise. C'est-à-dire que nous, on va travailler au centimètre près, voire parfois en dessous du centimètre, en termes de localisation et en termes de précision.
Oui, c'est bien de pouvoir être précis comme ça. Donc, est-ce que la concurrence est âpre dans votre domaine?
Alors sur la partie drone, pour faire de l'imagerie classique, oui, d'accord, ça c'est clair, puisque aujourd'hui acquérir un drone et faire de l'image, à part les formations, etc., c'est, je veux dire, assez simple, mais c'est accessible. La partie modélisation, le travail avec la partie microagriculture, la partie topographique, etc., celle-ci, la concurrence, on va dire qu'il y a quelques acteurs importants en France, il y a quelques acteurs aussi locaux, moins importants, mais c'est quand même des marchés qui sont naissants. Et ça reste aussi des marchés de niche pour l'instant, avec, à mon sens, un potentiel important quand même.
Très bien.
C'est pour ça qu'Imagency se positionne dessus.
Complètement. Merci David. Je propose qu'on fasse une pause et puis on reprend avec vous la suite de votre activité. À tout de suite.
IDFM Radio, le média valdoisien. Vous écoutez l'économie en direct avec Jacqueline Voraz.
Reprise 1er décembre, on essaie de reprendre nos programmes d'une façon assez normale après un arrêt de plusieurs semaines. Et j'ai eu la chance de pouvoir recevoir une délégation de la CPME aujourd'hui avec Bruno Troadec, Gilles Facioli et David Molina. David Molina, vous êtes en train de nous expliquer tout l'intérêt d'utiliser des drones dans des domaines très très particuliers. C'est assez passionnant. Hors antenne, vous avez suggéré à Gilles votre activité pour au niveau ferroviaire et vous avez quelque chose à nous raconter à ce niveau-là.
Alors c'est une expérience que l'on a eu l'année dernière. On a pu faire une visite virtuelle. Donc une visite virtuelle, vous savez, quand on visite un appartement, tout le monde a déjà vu une vision 360 d'un appartement. C'est ce qu'on appelle une visite virtuelle. Et on a pu faire une visite virtuelle d'un grand tunnel sous Paris, d'accord, ce qu'on appelle un entonnement. Un entonnement, c'est une jonction de plusieurs voies ferrées. Sous la gare Haussmann-Saint-Lazare, on était à moins 35 mètres sous terre et l'environnement, c'était un tunnel de 200 mètres de long, 18 mètres de large, 25 mètres. Et dans ce tunnel, on a positionné des caméras 3D. Et donc, on a remodélisé l'ensemble du tunnel qu'on a pu présenter dans une visite virtuelle avec des informations qui viennent s'ajouter, donc en plus de l'environnement réel. Donc, on peut superposer des informations. Et cette visite virtuelle, elle a été utilisée par l'entreprise, entre autres, pour pouvoir partager la visite du lieu sans que les personnes soient équipées et formées pour descendre dans un tunnel. Parce que descendre dans un tunnel, quand il y a des travaux, il faut être formé SNCF, etc. Et beaucoup de personnes ne pouvaient pas descendre. Et dans le cadre du projet, le chef de projet a pu partager cette visite virtuellement, d'accord, par définition, via un site internet. Et donc, c'est comme une réunion Teams, par exemple, comme les gens connaissent. On fait la visioconférence et en même temps, le chef de projet pouvait faire visiter le tunnel. Et des personnes se sont connectées, dont certains experts qui étaient à l'étranger. Donc ça a pu générer, pendant un comité de pilotage, des échanges sur le contenu du chantier, l'avancement, les difficultés, les points qui étaient achevés, les points qui restaient à achever. Et donc c'est quand même une expérience intéressante, et surtout pour une entreprise externe comme l'entreprise qui a fait les travaux, ça lui a surtout permis de faire partager à beaucoup de personnes à un instant T des problématiques durant un comité de pilotage. Donc très interactif, et surtout les personnes parlent de faits, c'est-à-dire de ce qu'ils voient, de ce qui s'est passé, de ce qui est raconté dans la vie virtuelle, ce qui évite d'avoir juste des supputations en disant on pense que là, typiquement tout le monde, et donc c'était 35 personnes, étaient dans la vie en même temps et durant le même comité de pilotage.
Et vous les avez sentis complètement séduits par votre projet?
Le chef de projet était hyper heureux de pouvoir présenter ça, parce que c'est à la fois, il y a un côté ludique aussi, au-delà du côté ludique qu'on peut avoir comme analyse de prime abord, de dire ouais, ça reste ludique, là on se rend compte que c'est devenu très opérationnel, c'est-à-dire que ça a été très pratique, pragmatique pour une entreprise de pouvoir montrer ça, et un chef de projet, donc un chef de chantier, un directeur de chantier, qui lui pouvait exprimer tout de suite ses difficultés, les montrer, et du coup derrière pouvoir avoir un plan d'action, des décisions, etc. Donc on se rend compte que des outils comme ça, comme visiter un appartement, comme on connaît pour le particulier, où on se dit oui c'est sympa, c'est joli, mais bon je vais y aller, je vais aller voir sur place. Là on se rend compte pour une entreprise qui a tout de suite cette dimension très pratique, très opérationnelle et utile pour l'avancement d'un projet.
Ça vous a donc obligé peut-être à faire des repérages avant d'y aller, parce que vous dites que c'est 200 mètres sous terre, donc
moins 35 mètres sous terre, 200 mètres
moins 30...
de long.
Ouais. Ah oui, 200 mètres de long, pardon. Un drone peut voler
Dans cette partie-là, on a fait voler un drone pour faire de l'image comme ça, mais c'était l'image plutôt, on va dire, sous forme de film, d'accord. Par contre, pour la visite virtuelle, c'est une caméra spéciale qui ressemble à un ballon de volet, si vous voulez, d'accord, mais sur lequel il y a 6 objectifs, donc 6 caméras sur ce type de ballon qu'on pose au fur et à mesure qu'on avance dans le tunnel, d'accord, et suivant les emplacements. Donc là, c'est principalement de la prise de vue de type photographique, mais avec des appareils photo très particuliers.
Donc vous-même, vous étiez dans le tunnel, alors?
Ah, tout à fait.
Ah oui,
on
c'est ça.
On est allé travaillé une journée dans le tunnel, y compris ça avec cette caméra et aussi avec un drone pour pouvoir avoir l'ensemble des images. Et ensuite, on a dû travailler. C'est comme si on devait faire un montage de film. On a plein d'images et il faut les associer les unes avec les autres pour avoir un résultat final présenté au client.
Bravo pour cette expérience. Vous vouliez nous parler aussi de Triaction?
Oui, alors Triaction, c'est le syndicat qui gère les déchets, qui est situé à Bessancourt. Et donc, on vient de terminer avec eux deux sujets, deux activités. On a déjà fait une première présentation sous forme d'une vidéo classique qui va être présentée à beaucoup d'écoles dans les villes qui sont gérées par le syndicat, donc autour de Bessancourt, Herblay, etc. Ce film retrace l'organisation du syndicat, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans une déchetterie? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où un reaper, donc une personne qui est à l'arrière d'un camion de ramassage d'ordures, tout le cheminement jusqu'à la déchetterie, présentation du syndicat, complètement. Ça, c'était un film, d'accord? Et puis, là, dernièrement, donc ça a été présenté samedi dernier, on a, de la même manière que le tunnel, on a modélisé en 3D l'activité du retraitement, du recyclage de déchets. Donc, ce qu'on met dans le bac de poubelle jaune, qu'est-ce qui se passe avec ces déchets? Et donc, du coup,
qu'on se pose soi-même.
Voilà. Et donc, du coup, maintenant, il existe une visite virtuelle qui va vous amener donc du moment où les déchets sont ramassés à l'arrière du camion. Ça va passer ensuite à la déchetterie à Bessancourt, ça va partir à Saint-Ouen-l'Aumône sur un quai de transfert pour être aggloméré en quantité, chargé dans des gros camions qui vont partir à Guichainville, donc dans le 27. Et là, on rentre dans l'usine et on voit tous les traitements qui sont faits à ces déchets. Donc, principalement, ça va être de séparer les cartonnages des plastiques, de l'aluminium, etc. Et là, avec la visite virtuelle qu'on a fait, qu'on peut utiliser soit sur un téléphone, soit sur une tablette, un ordinateur ou avec un casque de réalité virtuelle. On peut se projeter comme ça des différents sites et on rentre dans l'usine et on rentre dans les chaînes de traitement et on voit les différents déchets. Quel est le transit qu'ils vont faire jusqu'au moment où, à la fin, donc 81% du tri est fait par des machines ultra moderne, hein. Et puis à la fin, il y a toujours quand même un humain qui vient pour à la fin ségréguer les derniers déchets. Et ensuite, ça va être géré sous forme de balles. Donc les balles, c'est un mètre cube à peu près de produits de déchets. Donc des balles de plastique, des balles de carton, des balles d'aluminium. Et ensuite, ces balles vont être envoyées pour être retraitées. C'est-à-dire que le plastique va permettre de refaire des bouteilles en plastique, l'aluminium de refaire des canettes ou d'autres choses, etc. Donc, tout ce flux de déchets a été modélisé, remis en vie virtuelle. Et ça permet, entre autres, dans les écoles, lorsque le syndicat fait des présentations, de montrer tout ce qui se passe derrière et après la collecte de déchets.
Oui. Voilà. Peut-être aussi que ces entreprises ont un souci de, enfin, il y a une certification. C'est une façon aussi peut-être de montrer toute la chaîne et de prouver que la chaîne est bien respectée.
Alors voilà, je pense que ça, il y a des organismes qui certifient, puisque c'est quand même des gros acteurs nationaux qui font le recyclage comme ça. Hein. Le 5-4 Triaction s'appuie sur des partenaires certifiés. Là, ça permet surtout pour Triaction de communiquer, parce que comme ce qu'on a eu comme échange hors antenne, on va dire quelques instants, mais qu'est-ce qui se passe derrière le ramassage d'un déchet dans un bac jaune? Et ben là, avec un outil comme celui du principe de la visite virtuelle, vous avez accès à toute l'information, vous rentrez dans l'usine, vous voyez tout, et vous pouvez le faire depuis chez vous. Alors, on peut aussi visiter ce genre d'usine, mais c'est plus compliqué. C'est plutôt ouvert à des entreprises à titre particulier.
Absolument,
c'est moins facilement accessible. Et surtout, ça permet d'expliquer, donc c'est de la vulgarisation, dans les écoles, que le tri qui commence à la maison est un tri important, puisque finalement, derrière, on voit toute la chaîne. Et si le tri est mal fait, si on trouve une couche de bébé, tout le monde voit ce que c'est, une couche de bébé dans un conteneur jaune, et ben c'est une erreur de tri.
Et
à la fin, on voit effectivement la personne qui va trier, qui dit, moi je me retrouve à gérer des couches alors que je devrais avoir que du carton, de l'alu et du plastique.
Oui.
Donc cette partie, on va dire, connaissance, meilleure connaissance pour les enfants, pour les adultes,
c'est une vraie façon de les sensibiliser pour eux-mêmes inciter leurs parents à bien faire le tri.
Et puis pour notre planète.
Bien sûr. Gilles, je vous ai posé la question en antenne, est-ce que l'activité de David pourrait vous intéresser dans votre propre domaine?
Alors nous, elle nous intéresse dans la modélisation 3D. Parce qu'en fait, quand on fait de la réparation de pièces pour le ferroviaire, on intervient sur des machines qui font 200 mètres de long, puisqu'en fait, c'est des machines qui changent des voies ferrées. Donc elles enlèvent les voies ferrées, elles enlèvent le ballast, elles enlèvent les traverses, et elles remettent les mêmes choses, mais neufs. Donc c'est-à-dire que quand on intervient sur ces machines-là, il faut prendre un pied à coulisse, il faut aller relever les côtes, c'est un peu galère. Donc l'intérêt de la modélisation 3D, c'est de pouvoir, avec un laser, de prendre carrément l'image et avec le relief, tout ce qui va bien, pour être capable de refaire une pièce et de la changer sans avoir besoin de passer beaucoup de temps sur le domaine. Donc oui, ça peut être intéressant à ce niveau-là.
Ça peut être intéressant, voilà. Bon, vous prendrez rendez-vous après l'émission.
Ouais.
David, vos besoins aujourd'hui, c'est la notoriété et la recherche de clients.
Exactement. Alors, on est sur des marchés qu'on peut imaginer encore de niche aujourd'hui, mais qui sont vraiment en devenir. Quand je parle avec des sociétés du bâtiment, des travaux publics, etc., ils voient déjà un petit peu ce qu'on est capable de faire. Donc déjà, ils ont un premier aspect qui les étonne, en disant, ah bon, on est capable de modéliser. Là, dernièrement, on a modélisé un chantier complet à Osny. Donc, c'est un ensemble immobilier. Et on est capable, avec la modélisation, de mesurer tous les éléments. Donc, c'est-à-dire, on est aussi capable de faire du contrôle a posteriori de ce qui a été fait. Aujourd'hui, les entreprises, quand je les approche, ils disent, waouh, c'est super, mais ils n'ont pas encore intégré ce type d'outil dans leur processus de travail. Donc là, j'ai à la fois une démarche de notoriété pour Imagency, pour mieux connaître cette société, pour que eux en entendent aussi parler, mais de pouvoir travailler aussi avec ces sociétés pour rentrer dans leur process de traitement. Ça, c'est sur la partie BTP. Et puis, on travaille avec la Chambre d'agriculture aussi du 95 sur la partie plus agricole. Et là, c'est des sujets de qualification des principes de pour désherber les champs de blé, les choses comme ça. Et donc là, on est purement dans de la R&D, donc la recherche et du développement. Et on est en train de regarder aussi pour monter un partenariat avec une équipe informatique et de cartographie qui est située à CY, donc à l'université de Cergy.
Très bien. Donc vous êtes plus, dans ce cas-là, c'est plus les fédérations que vous contactez pour leur faire part de...
Voilà, les fédérations, donc ça peut être les fédérations du bâtiment, par exemple, c'est quelque part, c'est une cible. Les regroupements agricoles, quels qu'ils soient, type chambre d'agriculture ou autre. Donc moi, je suis en train de commencer à les démarcher. On a des contacts, on va voir ensemble des solutions. Et puis après, effectivement, des entreprises de BTP classiques, c'est-à-dire plus de la voirie, des choses comme ça. On est capable de modéliser aussi l'existant et de projeter sur des plans la vision visuelle, enfin la partie visuelle de ce que pourrait rendre un chantier. Donc ça permet pour eux de monter des dossiers avec plus de visuels pour leurs futurs clients.
C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Vous ne vous contentez pas de juste survoler. Vous avez vraiment un compte-rendu précis derrière.
L'idée, enfin, de ce que je me fais comme ordre de mission concernant et concernant mon entreprise, c'est d'amener de la valeur ajoutée. Être juste télépilote de drone en me disant, on vous fournit une image, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un fait des images et vous disait, montez le film vous-même. Donc là, nous, l'idée, c'est de faire à la fois de la capture, mais derrière de fournir un produit qui soit presque fini, pour lequel on pourra travailler ensuite avec l'entreprise. C'est là où il y a de la R&D, c'est-à-dire qu'on est obligé d'affiner à chaque fois nos modèles, on est obligé d'affiner ce qu'on peut rendre, parce qu'on est en train de défricher aussi une partie de ces activités-là.
Vous en parlez très bien, c'est passionnant. Juste encore une question, mais on va pas s'étendre parce que s'il faut que je donne la parole à Bruno, c'est aussi un moyen un nouveau moyen de sécurité, le drone. Je pense notamment aux Jeux Olympiques avec le jour de l'ouverture, l'ouverture des Jeux sur la Seine, où je crois qu'il va y avoir beaucoup de drones.
Alors l'activité drone, effectivement, on voit qu'il y a, plein de domaines d'activité en réalité. On peut commencer déjà à surveiller, par exemple, avec des drones qui ont des caméras thermiques, ce qui se passe dans les champs, ce qui se passe pour tout ce qui est partie animalière, d'accord ? Alors, pour les Jeux Olympiques, on est en zone urbaine, en zone avec des personnes au sol. Donc, il y a beaucoup de problématiques réglementaires, à la fois de survol des personnes...
Oui.
D'accord.
Absolument.
Donc ça, les autorités de police peuvent le faire. Hein, monsieur tout le monde, même moi, je ne peux pas le faire facilement. D'accord. Et après, il y a le sujet de la surveillance intrinsèque. Donc, est-ce qu'on peut me surveiller? Comment? Donc, les pratiques qu'on retrouve avec les caméras dans les rues déjà. Donc, il y a à la fois du législatif, il y a du technique et il y a aussi beaucoup de sécurité. Voilà. Et donc, il va falloir que les autorités se positionnent avec ces trois critères. Mais clairement, il y a un vrai plus de pouvoir surveiller comme ça. Alors peut-être qu'au-dessus de la Seine, au moment où il y aura le défilé, etc., il y aura des drones aussi. Voilà.
Oui, ça a fait l'objet. Ce que vous dites, ça a fait l'objet d'un projet de loi qui a été déposé au printemps, justement pour ces fameux Jeux Olympiques par rapport le survol de personnes et tout. Merci infiniment, David, pour cette démonstration de votre entreprise. On comprend que vous avez beaucoup de travail à l'horizon, compte tenu de tout ce que vous nous avez dévoilé ce matin.
6 jours et demi sur 7.
Bravo. Donc, on continue cette émission, mais on fait encore une pause avant de donner la parole à Bruno Troadec. À tout de suite.
Le Média Valdoisien.
C'est bien l'économie en direct et ce matin, j'ai le bonheur de vous retrouver tous, fidèles auditrices et auditeurs, avec une spéciale CPME du Val d'Oise, avec à mes côtés Bruno Troadec, président fondateur de AON Service, Gilles Facioli, président de SAFIM et David Molina, président de Imagency. On continue avec vous, Bruno Troadec. Merci d'être présent dans nos studios. Alors, je disais au début que vous avez une entreprise qui semble prospère. Comment est-elle née, cette entreprise, Bruno ?
En fait, ça fait 31 ans que je suis dans la profession de la propreté. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai grimpé tous les échelons jusqu'à être directeur général d'une entité nationale qui employait plus de 10 000 personnes. Et en 2016, j'ai eu l'opportunité de quitter ce dernier employeur pour fonder AON Propreté et Services. On est reparti de zéro avec mon adjointe. Et jusqu'à employer une centaine de personnes. Et il y a 18 mois, on a eu l'opportunité de racheter un confrère, ce qui nous a permis de nous étendre sur l'Île-de-France. Et aujourd'hui, on emploie près de 180 personnes.
Très bien, ouais, bravo. Donc, votre cœur de métier, c'est quoi exactement ?
On est positionné essentiellement sur une clientèle intermédiaire. On s'est très vite retrouvé à proposer nos services à des sièges sociaux d'entreprises de taille moyenne et beaucoup plus grosse, puisqu'on entretient des locaux qui vont de 500 mètres carrés jusqu'à 50 000 mètres carrés, avec une capacité à se projeter en province, puisqu'on a quelques clients grands comptes aujourd'hui qui nous demandent de les accompagner sur certaines grandes villes françaises.
Oui.
Donc avec un développement à la fois organique, qui est plutôt dynamique, puisqu'on a un taux de croissance à plus de 10%, une opportunité, puisque je suis en phase de finale de négociation d'une prochaine croissance, qui va nous amener des emplois de près de 240 personnes. Et on est en train de développer un paquet de prestations dites associées, donc avec des propositions de prestations de maintenance de bâtiments, électricité, plomberie, petit déménagement, du service qu'on fait depuis le début, qui va de la mise en place de salles de réunion jusqu'à préparer du petit déjeuner, faire de la blanchisserie, etc. Et on développe aussi en annexe via notre première croissance, et on va booster les ventes sur cet aspect-là avec la prochaine croissance, c'est de la prestation d'espaces verts.
Donc oui,
aujourd'hui,
c'est ça.
Donc aujourd'hui, on fait de l'entretien d'espaces verts. Mmh. Demain, on va être amené, et demain, c'est dans quelques mois, on va être amené à faire de la création d'espaces verts.
Carrément.
Tout à fait.
Donc vous allez vous prendre les services de personnes spécialisées.
Bah, disons que on a nos propres agents qui sont formés et qui savent faire, et l'entreprise qu'on veut racheter, qui fait de la propreté essentiellement, mais qui a tout un département de création d'espaces verts, a ses propres ressources. Parce que l'idée, c'est de proposer à nos clients toute une gamme de services qui l'aident et qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur bien-être. Mais par contre, on veut, dans la mesure du possible, de maîtriser nos propres agents, nos propres méthodes. L'idée étant d'être toujours plus à l'écoute et plus réactif.
Parce que vous pensez que d'une entreprise à une autre, les méthodes ne sont pas forcément les mêmes.
Le fond métier est toujours le même. On est dans un métier qui emploie près de 600 000 personnes en France,
oui.
qui représente 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez globalement une dizaine d'entreprises qui tiennent 20% de ce marché, qui sont des multinationales, multimétiers, multipays, mais qui ont pas toujours la réactivité que nous, PME et ETI. Ils ont le relationnel, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je suis issu des grands groupes, je vais pas cracher dans la soupe qui m'a nourri pendant tant d'années, qui m'a formé, mais c'est vrai qu'en tant que TPE et PME ou ETI, on a cette capacité d'être plus disponible, parce qu'on gère pas des dizaines de milliers de salariés. Moi, je connais encore quasiment tous mes salariés.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ça permet, tous mes clients ont mon numéro de téléphone et j'ai des équipes pour s'occuper d'eux. Quand certains clients trouvent que ça va pas assez vite, ils savent me passer un petit message ou me passer un coup de fil, et ils savent que derrière, ça va réagir très vite. C'est ce qui fait la différence. On parlait de valeur ajoutée tout à l'heure. Quand vous videz des poubelles dans des bureaux, la valeur ajoutée est très faible. Par contre, on va apporter du service complémentaire, de l'écoute, de l'anticipation dans certains cas. Moi, mon idée, c'est pas de simplement vider des poubelles, c'est d'être capable de dire au client, voilà, votre ampoule est grillée, votre chasse d'eau a fui, est-ce que vous voulez que je vous répare? Et c'est comme ça qu'on développe de la valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on développe nos entreprises.
Je pose la question à mes deux autres invités, Gilles et David. Vous passez forcément par des sociétés de nettoyage, Gilles?
Alors oui, nous on a un prestataire extérieur qui vient, qui fait le nettoyage des sols, des vitres.
Oui.
Donc c'est sûr que moi ça m'évite de le faire en interne, hein. J'ai pas les ressources pour le faire. Par contre, ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est le fait aussi d'avoir une remontée d'informations sur les chasses d'eau, les ampoules. C'est vrai que c'est pas mal, je trouve ça très bien, parce qu'on l'a pas, nous. En fait, c'est moi souvent les week-ends qui dois aller changer les chasses d'eau parce qu'il y a des fuites. ce serait pas mal qu'on me le dise et qu'on le fasse, quoi.
Bon, bah, vous prendrez aussi la carte de Bruno en partant. Et vous, David?
Nous, on a une toute petite surface, on a un studio, oui. Donc.
Oui, il n'y a pas besoin de société encore, pas encore.
Non, on est un peu robotisé, on a un robot pour laver le sol, on a un robot pour laver les carreaux, on a essayé de faire un peu high-tech comme on sait faire.
Ouais,
mais,
ouais.
Voilà, les surfaces ne peuvent pas justifier.
Très bien. Bruno Tradec, vous vouliez nous parler d'une information importante, c'est l'index propreté.
Oui, alors accessoirement, au-delà de mes responsabilités de dirigeant, je suis administrateur de la Fédération des entreprises de propreté Île-de-France. Et à ce titre, on agit pour défendre l'intérêt de nos confrères. Et on vient d'avoir le feu vert de la DGCCRF et de l'INSEE pour un index propreté. Parce que dans un métier qui est ultra concurrentiel et où les prix sont extrêmement serrés, on est quand même sur des métiers à très faible marge. L'idée, c'était de pouvoir valoriser à sa juste au juste prix nos métiers qui sont essentiellement composés de salaires et de charges sur salaire. Et notamment sur les marchés publics où vous vous retrouvez avec des formules de révision de prix qui sont qui vous donnent quelques miettes, on a réussi à obtenir la création de cet index métier qui nous correspond mieux et qui valorisera dans les années à venir nos métiers à encore une fois à leur juste valeur. Donc on est très fiers de ça, c'était un gros travail fait avec les parties prenantes et on est en train de déployer. Donc on espère que la revalorisation de nos tarifs chaque année ne sera plus un sujet dès 2024.
Oui, après revaloriser les tarifs, c'est le risque aussi de perdre des clients, peut-être.
C'est sûr.
Sauf si tout le monde, bien sûr, revalorise ses tarifs.
Mais pour échanger avec certains de mes confrères, aujourd'hui, on le voit bien avec l'après-crise Covid, il y a une nécessité de reconstituer nos marges. On est, encore une fois, on est dans des métiers, on gère beaucoup de volume, ça c'est un fait, mais à des niveaux de marge qui sont extrêmement faibles. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que... Un prix nettoyage, globalement, vous êtes entre, dans certains cas, à 75-85%, voire 90% de salaire.
Oui, oui.
Donc ça veut dire que si nous, on a une convention collective où les salaires sur les deux dernières années ont été réévalués de près de 11%. On n'a pas réimpacté 11% auprès de nos clients.
Bien sûr.
Donc il faut que chacun prenne sa part et le client en premier. Après, on est en capacité de compenser ces hausses de salaire et hausses de coûts en proposant des choses un peu innovantes pour faire des gains de productivité. Soit en prestant moins, soit en prestant différemment pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Un contrat de nettoyage, donc c'est un équilibre tripartite. C'est la satisfaction d'un client par rapport à une prestation attendue. C'est un prestataire qui a besoin de gagner sa vie pour vivre et continuer à investir. Et ce sont des salariés qu'on fait travailler tous les matins, très tôt, très tard, voire le week-end, voire la nuit. Et il faut prendre en compte leur bien-être.
Oui.
Moi, je refuse de les faire travailler sur des patins à roulettes. Donc, à un moment, il faut aussi qu'on puisse...
Parce que ça existe.
Ça peut exister dans certains cas, mais on est un certain nombre d'acteurs sur la place de Paris et de France à dire stop.
Oui, c'est
aujourd'hui, je refuse des marchés parce que je considère que ça va trop vite.
Oui.
Donc, moi je me préoccupe de la satisfaction de mes clients. Je suis là pour les servir au mieux. Je suis capable de me tordre dans tous les sens pour y arriver. Par contre, je veux que ça se fasse dans le respect de mes agents.
Complètement.
Parce que c'est eux qui font la richesse de mon entreprise. Moi, je parle bien, voilà, je vis bien, mais c'est eux qui, tous les matins, se lèvent à 4h, 4h30 pour être à 6h sur les plateaux de la Défense ou de zones industrielles, qui rentrent chez eux les 23h. Enfin, c'est des conditions qui sont dures. Donc, on a la responsabilité de regarder de près comment améliorer les choses et ça correspond aussi à un besoin d'attractivité de nos métiers.
C'est tout à votre honneur. il est beaucoup question de, on parle beaucoup de RSE.
Oui.
Est-ce que vous avez, vous êtes dans cette...
Alors nous, on est une fédération professionnelle très en avance sur les sujets. Mmh. Je suis une entreprise très, très en... Enfin, moi, j'ai créé le AWEN sur des fondamentaux qui sont le respect du salarié, le respect de l'environnement. Mmh. Nous, on utilise près de 85% de nos produits sont des produits écolabellisés. Dès qu'on peut, on substitue. Ça va jusqu'à la fourniture de papier toilette en papier recyclé. Enfin, tout est axé sur
ce... Vous jouez le jeu jusqu'au bout.
Tout à fait.
Vous avez une nouvelle acquisition bientôt, donc on est aussi toujours dans la transmission, hein, au passage.
On est. J'ai un accord de principe. J'étais avec la direction de cette entreprise encore en ligne tout à l'heure. Donc on est d'accord sur les grandes lignes. Va falloir faire le tour des banques parce que c'est une entreprise de propriété. C'est beaucoup d'argent en fonction de son volume d'affaires. Donc on va faire le tour des banques. Je suis pas très inquiet. C'est plus le taux qui va m'être attribué.
Entre
l'achat que j'ai fait il y a 18 mois et aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit écart.
Oui.
Bon, on va passer de 1% à 5 et quelques pourcents, enfin quelque chose dans le genre, oui, ça a un impact.
Vous me disiez, hors antenne, que votre siège est dans un lieu idyllique.
Oui, alors nous, c'est très atypique. Ça surprend les gens qui viennent nous voir. On a installé nos bureaux dans un haras à Ambleville. Donc, c'est dans le Vexin, derrière Magny-en-Vexin. Et nos voisins de bureau sont des chevaux. Donc, nous, on a 150 mètres carrés de bureaux pour l'équipe, au-dessus des chevaux. Donc, c'est très atypique. On est au milieu des bois. Donc, les gens se perdent souvent. Quand ils mettent le GPS en route, ils finissent au milieu des champs. Donc,
oui, c'est vrai. C'est quand on va voir une entreprise de nettoyage, on ne s'attend pas à...
Oui, il y a cette image. Alors, soit vous êtes une multinationale et vous avez moyen d'avoir un beau siège, une tour à la Défense. Bon, moi, je rêve pas de ça. Ça me passe au-dessus de la tête. Ou après, il y a effectivement l'image de la vieille boîte de nettoyage au fond de monde industriel, tout ondulé, avec un espèce de bric-à-brac. Non, nous, on essaye de trouver... on a trouvé l'intermédiaire. Donc, des locaux sympas. Moi, je trouve que c'est important pour les gens qui travaillent pour moi d'être dans un environnement... sain, détendu. Voilà, on a des exigences, j'ai des ambitions. J'espère doubler mon chiffre d'affaires sous les 3 ans, donc il faut travailler, mais voilà, dans des conditions sympas, détendues.
On a évoqué, j'y reviens aussi, on a évoqué avec David et Gilles le Covid, puisque vous aviez créé 2 ans plus tôt, donc ça a dû être un vrai défi aussi.
Nous, on était super contents. On démarrait 2020 sur les chapeaux de roue, on prenait des beaux marchés, on a pris tout un réseau d'agences d'intérim qu'on a déployé dès le mois de janvier, donc ça démarrait sur les chapeaux de roue jusqu'au discours de notre président qui nous a annoncé qu'il fermait la boutique. Donc le lendemain matin, 7h, j'étais devant...
Le 17 mars.
Ouais, c'est ça. Et le lendemain matin, 7h, j'étais devant mon ordinateur, parce que toute la nuit, j'ai réfléchi en disant, mais je fais quoi? Est-ce que je voyais que j'avais pas à l'époque une trésorerie aussi importante qu'aujourd'hui? Donc j'avais fait les comptes, je me suis dit, j'ai de quoi payer 2 mois de salaire, et après j'arrête. Donc j'ai écrit à tous mes clients, j'ai dû envoyer un mail à 8h30, un envoi groupé, en disant, qu'est-ce que vous faites? Et là, toute la matinée, retour de mail, on ferme. Et j'ai perdu 87% de mon chiffre d'affaires en une demi-journée. Donc voilà, mon comptable qui me dit on va voir, et puis voilà, il y a eu les services de l'État qui ont œuvré, et moi je fais partie de ceux qui disent qu'on a été bien aidés, puisque le chômage partiel nous a permis de couvrir nos frais. Donc c'est sûr qu'on a eu un manque à gagner, hein, on n'avait pas de marge.
Bien sûr.
Mais j'ai
ça vous a permis de
par contre, on a profité de ce moment pour j'étais avec mon adjointe, à l'époque on n'avait pas d'assistante, et on a pas mal réfléchi sur l'avenir de l'entreprise, parce que nous on a bien deviné qu'on allait repartir, hein. Et l'idée c'était on a profité de ce temps libre pour benchmarker le marché sur tout ce qui était digital.
Oui.
Parce qu'en fait on était une phase transitoire de l'entreprise qui était de quitter le statut de TPE vers un statut de PME, et avec toujours cette ambition de vouloir grandir et de se dire on a intérêt de se préparer, parce que venant des grands groupes, je sais par expérience que c'est toujours dur de transformer en cours de route. Donc l'idée c'était de dire on met les fondamentaux de l'entreprise tout de suite en place, et puis les gens qui nous rejoindront au fil des années s'habitueront tout de suite à nos manières de faire.
Oui, donc, puis surtout quand on est en pleine activité, on a la tête dans le sac, on n'a pas le temps forcément de réfléchir à certaines stratégies.
C'est exactement ça. Ouais. Et Stéphanie, qui travaille avec moi depuis presque le début, a benchmarké le marché par rapport à ce que je lui avais demandé. Ça nous a permis, cette période-là, d'investir dans des outils, de prendre un ERP, de travailler sur tout ce qui est coffre-fort électronique, sur la création d'intranet pour nos clients. Et c'est ce qui était dit tout à l'heure. Nos clients souhaitent savoir ce qui se passe chez eux. Et on est plutôt force de proposition en mettant en place un certain nombre d'outils digitaux qui leur permettent d'avoir l'œil sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait, pas d'ailleurs, de faire leurs demandes, de suivre leurs demandes. On voit jusqu'à aujourd'hui mettre en place des IoT, c'est-à-dire des appareils pour mesurer un certain nombre de choses que les clients souhaitent voir mesurer. Donc on essaye d'être à la hauteur de l'attente de nos clients et d'être capable de répondre aussi bien, voire mieux que certains de nos confrères très importants qui ont plus de moyens. Mais voilà, on est imaginatif.
Merci Bruno. C'est le résultat est là puisque vous êtes en pleine croissance. Merci Bruno pour ce focus sur votre activité et puis nous avoir sensibilisé sur l'importance de l'index propreté. Je n'ai pas posé la question à David, je lui poserai tout à l'heure. Vous-même, pourquoi avez-vous rejoint la CPME?
Pour rencontrer des gens d'autres univers, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issu de ce métier, je connais à peu près toute la planète nettoyage en France, mais j'avais envie aussi de m'ouvrir à d'autres univers, rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Alors, on est tous sur les mêmes problématiques, mais c'est toujours intéressant de rencontrer,
d'échanger,
et puis d'être moins consanguin. C'est ce qui est intéressant.
Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. On marque une pause et puis ça sera la fin de l'émission juste après. À tout de suite.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct et ce matin, pour la reprise de nos émissions, j'ai le bonheur de recevoir la CPME du Val d'Oise, trois dirigeants de cette communauté de chefs d'entreprise. Alors dans quelques minutes, c'est la fin de l'économie en direct, mais on va pas se quitter comme ça. On refait un tour de table. Donc Gilles Facioli, président de SAFIM, quelques mots, quelque chose vous auriez oublié de nous dire ou voilà.
On se rend compte qu'on a en fait tous la même problématique, problème de personnel, d'investissement, de développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui le chef d'entreprise, pour moi, c'est un stratège. C'est pas forcément un super technicien, c'est pas forcément un super financier, mais il faut qu'il sache jouer avec tout ça pour faire en sorte de développer sa boîte. Moi, c'est ce que j'essaye de faire et je pense qu'on est tous à essayer de faire ça.
Merci Gilles. Apparemment, vous y arrivez très bien.
J'essaye,
oui. Je vous ai pas posé aussi la question. Donc, votre maman, que pense-t-elle de votre réussite? Parce que c'est une réussite.
Oui, c'est une réussite. Je pense qu'elle est fière quand même que la boîte soit encore en état. Et puis voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de transmission derrière, parce que moi j'ai deux filles qui ne sont pas du tout intéressées par ça. Donc ça s'arrêtera là.
C'est dommage,
Ça continuera d'une autre manière, mais je pense que ça continuera, oui, je ne m'inquiète pas pour ça.
Très bien, merci. Merci d'avoir passé la matinée avec nous. David Molina, alors je ne vous ai pas posé la question, pourquoi la CPME?
La CPME, comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est un lieu de rencontre entre chefs d'entreprise, donc il y a des problématiques qui sont assez similaires. C'est aussi l'opportunité de pouvoir visiter des entreprises. C'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec la CPME, c'est de pouvoir aller visiter une entreprise qui fabriquait l'électricité dans le Val d'Oise. Et donc, ça a été l'occasion de pouvoir visiter en collectif des entreprises, de rencontrer des personnes. Donc, le sujet pour moi d'intérêt, le point d'intérêt, il est là. C'est de pouvoir avoir cette relation qui peut s'établir entre des chefs d'entreprise, comme l'évoquait aussi Gilles. On est quand même assez seul souvent.
C'est vrai.
Sauf si on peut partager parfois un petit peu au niveau de la communauté des directions, mais pour une TPE, on est souvent assez seul. Et de pouvoir partager des problématiques communes, c'est très, 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 très enrichissant et nécessaire.
J'ai pas demandé non plus si des auditeurs, auditrices veulent vous joindre pour s'ils ont des problèmes de photos ou de.
Imagency.fr.
Très bien.
Imagency.fr. Imagency.
Très bien. Mais vous faites le salon Effervescence cette année?
Il aura lieu, je crois, à Herblay.
Oui, c'est ça.
Oui, normalement, j'espère pouvoir regarder comment faire avec eux.
Donc, on se retrouvera là-bas. Merci, David Molina. Bruno Tradec, également un mot de conclusion avant de nous quitter.
Pour tout besoin, awen-du6service.fr avec un S à service. Voilà.
Donc vous faites surtout les entreprises, hein, vous faites très peu les particuliers.
Très peu, c'est un choix stratégique.
Oui.
On reste concentré sur du privé, les contrats de droit privé.
Merci messieurs d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct et puis d'avoir certainement donné envie à d'autres dirigeants d'adhérer à la CPME du Val d'Oise, Confédération des petites et moyennes entreprises, dont le leitmotiv reste aider, soutenir, défendre les TPME, PME. On peut peut-être rappeler ce qu'il faut faire justement pour adhérer à la CPME. Gilles, comment avez-vous fait ?
Bon, en fait, moi, comme je suis à Argenteuil, je connaissais très bien Pierre Cuchely, donc c'est grâce à lui que je suis rentré. Enfin, CPME, mais comme je vous l'ai expliqué, hein, j'étais déjà au CPMI il y a très longtemps.
Vous avez
donc,
été élevé
c'est ça.
Au biberon CPME.
C'est presque ça, ouais. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué.
Il suffit juste de pousser la porte et
exactement.
C'est
bon.
On les trouve sur Internet.
Voilà, mon expérience récente, pareil, on les trouve sur Internet et en discutant, on obtient le petit dossier
d'inscription,
voilà, et toute présentation des avantages de participer.
Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Sabrina pour la technique. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Moi, je vous retrouve mardi à 9h30 pour une nouvelle émission consacrée cette fois à 60 000 rebonds. Alors à mardi, belle journée et bon week-end.
IDFM Radio, le média valdoisien.